De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama. Une émission de 30 minutes consacrée évidemment au cinéma, ce seront des chroniques mais aussi des instants ludiques. Alors, de quoi on va parler, Marine?
Eh bien moi je vais vous parler de deux réalisations françaises. Le Grand Bain, premier film de Gilles Lellouche, encensé à Cannes, et Galveston, premier film, première échappée américaine pour Mélanie Laurent.
Et puis toi, Manu?
D'un joli film kazakh, La tendre indifférence du monde, et puis on peut pas passer à côté du nouveau Predator.
Là, c'est celui qui ratisse toutes les salles contre celui qui aura quelques salles. C'est comme ça, c'est Cinérama. Et puis moi, je vous parlerai de Cold War. Ça, c'est le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Et puis l'instant ludique, eh bien, ce sera le blind test spécial Lars von Trier. On écoutera 5 extraits de films du réalisateur danois, donc bien parce que son long métrage est actuellement sur les écrans. Mais on débute avec la version nage synchronisée, version full monty.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée.
Je vous présente Bertrand.
La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça?
Mais que se passe-t-il dans la comédie française? Deux comédies sortent à une semaine d'intervalle, deux comédies qui ne comportent ni humour sexiste, ni humour homophobe, ni humour raciste. Il s'agit de En liberté de Pierre Salvadori, dont on vous parlera la semaine prochaine, et donc du Grand Bain, première réalisation de Gilles Lellouche, dont je vais vous parler maintenant. Alors il faut dire que Gilles Lellouche est en train de tranquillement passer du rôle d'hétérobo du cinéma français à celui de quadra arty, en enchaînant les rôles discrets mais réussis d'hommes profonds et en les faisant bien. Et ça vient de quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup cette personne à la base. Le Grand Bain est sa première réalisation, donc montrée à Cannes cette année. Il arrive en salle précédée d'un excellent bouche à oreille. En même temps, vu le nombre de stars qu'il y a au casting, il suffit que chacun des acteurs à l'affiche demande à deux de ses amis d'en dire du bien, et puis le tour est joué à une très bonne note sur Allociné. Allez, trêve de balivernes, on écoute la bande-annonce.
Je t'ai demandé quelque chose?
Je voulais juste vous aider.
Garde tes mains pour gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez gagner?
On veut juste participer.
Pardon, j'ai pas entendu.
On veut juste participer.
Participer, fils de pute!
Ça va pas!
Ça va pas quoi?
Rien, rien.
Maintenant, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
J'ai pas mes habits pour courir, là.
Voilà donc une bande de quadra relativement paumée, le colérique interprété par Guillaume Canet, le dépressif lunaire, oh comme c'est surprenant, interprété par Mathieu Amalric, l'éternel enfant un peu attardé joué par Philippe Catherine, le chanteur raté joué par Jean-Hugues Anglade et un patron endetté qu'interprète Benoît Poulvorde. Bon, on remarquera qu'au niveau distribution des rôles, Gilles Lellouche n'a pas pris de grands risques. Et donc, ces cinq personnages décident de prendre des cours de natation synchronisée, des cours qui leur permettent aussi de discuter de leur vie. De leur vie un petit peu médiocre, comme on l'a compris, d'être en équipe, d'être ensemble et donc d'être plus fort. Leur coach, c'est Virginie Efira, une ancienne alcoolique un peu érotomane, bientôt aidée de Leïla Bekti, qu'on attendait dans la bande-annonce, championne devenue tétraplégique. Et elles vont essayer de les emmener jusqu'au championnat du monde de natation synchronisée masculine. C'est là le coup de génie simple mais audacieux du Grand Bain, un peu à la manière de Divine qui inversait les codes du film de banlieue en les faisant jouer par des filles. Le Grand Bain reprend le film de sport, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, façon Million Dollar Baby, mais avec des hommes qui ne croient pas en eux et des femmes qui les coachent pour s'affranchir, elles, de leur passé tourmenté. Alors c'est toujours volontairement un peu pathétique, un peu ridicule, mais jamais méchant, les personnages étant tous traités avec une égale tendresse. Le Grand Bain, c'est plus qu'une simple comédie, c'est un film mélancomique qui parle de fragilité au masculin, qui parle de virilité, qui s'interroge sur comment doit être un homme dans la société et qui le fait par le rire. Et sur ce point, eh bien, Lellouche a très bien choisi ses comédiens qui sont tous excellents, malgré des personnages un petit peu stéréotypés. Alors en revanche, même s'il s'en sort bien une caméra au point, on ne peut pas quand même dire dire qu'avec la première réalisation de Gilles Lellouche, on assiste à la naissance d'un auteur. Quelques références, ça et là, nous font comprendre eh bien, qu'il s'amuse avec l'image. Mais il a aussi l'air de se chercher un petit peu quand même, hein, visuellement. Mais bon, on imagine qu'il peaufinera son style lors de ses prochaines réalisations. Et alors, si je voulais vraiment chipoter, parce que j'ai quand même énormément aimé le film, je dirais que je ne sais pas si la tirade du début, dite d'une voix monocorde par Mathieu Amalric, est bien nécessaire. Je crois que j'en ai un petit peu marre des voix off de Mathieu Amalric. On n'en a pas tous un peu marre ? Non,
Ça dépend.
Moi, j'en ai un peu assez de ces voix off. Mais c'est voilà, bien. Sinon, Le Grand Bain, c'est en salle et je vous le conseille.
Ça me donne envie de faire un blind test spécial voix off de Mathieu Amalric. Parce que, effectivement, j'ai quelques films en tête.
Vous avez le film ou l'acteur
Ah non, bah, l'acteur, on l'aura, évidemment. Allez, on passe du grand bain à deux amants qui s'aiment d'un amour brûlant et impossible en pleine guerre froide. C'est Cold War.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On reconnaît tout de suite que Cold War est un film venu de l'Est, un film qui, au-delà de se situer à l'époque communiste, raconte un amour impossible, éternel et infini entre un musicien, une chanteuse, un propos alors très universel en somme, mais qui ne manque pas de raconter un monde qui n'est plus et que les Polonais eh bien, sont bien contents d'avoir quitté. Quand le film débute, nous sommes dans la Pologne communiste de 1949 avec Victor. Ce musicien est chargé avec une autre spécialiste et un bureaucrate de collecter le patrimoine musical dans les fermes et les villages de Pologne. En trouvant les meilleurs chanteurs et danseurs du pays, eh bien, il compte former une troupe qui représentera la culture et le patrimoine de la Pologne dans tous les pays de l'Est et pourquoi pas eh bien dans le monde entier si l'Ouest en veut bien, parce qu'on ne sait jamais si les villes occidentaux pouvaient embrasser le communisme après quelques chansons folkloriques, eh bien c'est toujours bon à prendre. Victor tombe sous le charme de Zula qui, fort de son talent, de son aura, de sa beauté, de sa jeunesse et d'une forme d'assurance, va sceller leur amour. À l'entreprise très sérieuse et ronflante du folklore succède la passion, voilà qui fait basculer le film de Pavel je savais que j'aurais un problème pour le dire, Pavlovski. Dans un autre monde, à la soudaineté de l'amour, aux élans de la passion, succèdent des longues ellipses qui vont faire glisser l'histoire sur une dizaine d'années, hein, dans plusieurs lieux habités par le couple ou l'un des deux. Car en tournée à Berlin, avec le groupe folklorique, eh bien Victor aura l'audace de proposer le passage à l'Ouest, une fuite qui l'emmènera seul à Paris, où il compte bien, en se frottant au jazz, devenir un artiste. Mais à bien y regarder, eh bien, l'Ouest lui apporte moins de respect et consécration que le système communiste qu'il a quitté. Ou alors, est-ce son amour qui lui manque ? Zula le rejoindra à temps avant de tout plaquer et de préférer sa Pologne natale. Et l'histoire se répète ainsi plusieurs fois. Ces amants-là sont faits pour s'aimer mais ne peuvent vivre ensemble. Il s'ensuit une histoire folle, dévastatrice, dans laquelle on navigue entre plusieurs époques, villes, pays et ambiances. 10 ans sont ainsi projetés devant nos yeux, mis en lumière dans un noir et blanc qui va alors aussi bien à la Pologne de l'après-guerre, et le réalisateur dit qu'il ne voyait pas comment d'ailleurs la représenter autrement, cette Pologne qu'en noir et blanc, qu'à la période parisienne où l'on passe une soirée dans un club enfumé à écouter le rock yéyé. 1, 2, 3, hop, 4, hop, rock, 5, 6, 7, hop, 8, hop, rock. Alors dans cette séquence, Zula est ivre, ivre de plaisir, de liberté, s'empare de la piste de danse, monte sur le bar, tandis que son amant, lui, eh bien, paraît miné et anéanti. La mise en scène de Pavel Pavlikovski ne se suffit pas de l'excentricité toute relative, hein, du noir et blanc, mais en s'appuyant sur les situations, les allers-retours, les ellipses, les déchirures, encore les actes de courage, le réalisateur polonais reste au plus près du tourbillon d'un amour qui emporte le spectateur. On ne sait pas tout à fait alors ce qui les désunit, pas plus que ce qui les unit, mais le spectateur sent que l'Est et l'Ouest aura tout déréglé chez eux, même si aucun bloc n'est plus salutaire qu'un autre pour eux. La fin du film nous donne une indication très précise, hein, sur cette histoire d'amour universel qui ne fait que se plier à un contexte. Avec Cold War, le réalisateur a tenu à rendre hommage alors à ses parents qui ont eu aussi un amour qui les a séparés pour mieux les unir et les disjoindre encore. Un ressort dramatique que le réalisateur polonais ne fait tenir qu'une heure et demie, ce qui est plutôt rare, hein, pour un film en compétition cannoise. Mais Cold War est sec, sans gras, sans bavure. L'actrice est sublimée par le noir et blanc. Sa fougue, son insatisfaction, comme sa douce mélancolie, sont contagieuses. On l'écoute d'ailleurs dans un registre où elle ne joue pas le folklore campagnard polonais, mais un morceau dans un bar parisien.
Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Czarne że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
Voilà, c'est le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, Cold War, de Pavel Pavlikovski. C'est un film qui est sur les écrans depuis le 24 octobre. Et à noter que c'est le réalisateur de Ida qui a été l'Oscar du meilleur film étranger en 2015 et qui reprenait déjà un noir et blanc. Alors certains critiques ont été un peu agacés par cette
très beau, ce film,
nouvelle utilisation
peut-être
du noir
et blanc. Peut-être un peu trop formel comme ça. Un peu trop
là aussi,
voyant.
Il est formel, hein, voilà. Évidemment. Voilà, on va maintenant passer à un film kazakh, et ça donne l'occasion de citer ce réalisateur. Le destin de 100% de mes films au Kazakhstan, c'est l'étagère, personne ne les voit. Et toi, tu vas nous en parler, Manu.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
D'autant que c'est son 6e long métrage et c'est le premier qui est distribué en France, donc on a failli faire partie de ceux qui ne l'auront pas vu. Voilà, donc il existe des films qui vous séduisent d'entrée, hein, dès les premières images, accrochant votre regard impressionné par une réelle maîtrise du cinéma. Et même là, très surpris dans le cas de La tendre indifférence du monde, hein, présenté à Cannes cette année dans le cadre d'Un certain regard. Alors ce film kazakh d'Adilkhan Yerzhanov n'a rien, on va dire, d'un chef-d'œuvre absolu, mais sa fragilité, ses audaces surprennent. Déjà, on ne s'attend pas à voir un sujet social et politique ancré dans une réalité d'un pays très pauvre, gangréné par la corruption, traité de cette manière. La crainte de subir un style naturaliste avec caméra à l'épaule est vite dissipée dès l'ouverture majestueuse avec un plan panoramique de la campagne absolument sublime, comme il y en aura quelques-uns dans le film. Alors l'histoire, hein, proche du mélodrame, raconte celle de Saltana, alors sublime actrice, hein, Dinara Bakita-Bayev, une intellectuelle diplômée en médecine, férue de littérature et de peinture, se retrouvant confrontée à un drame familial. Son père décède, laisse derrière lui des dettes importantes. Pour éviter la déroute, elle part rencontrer son oncle véreux qui lui propose un marché, se marier avec un de ses amis, un partenaire en affaires. Alors évidemment, hein, un type repoussant et obèse, enfin là, un petit peu caricatural. Mais bon, ça fait partie du genre, je pense aussi. Hein. Accompagnée par le solitaire Kuandik, son ami d'enfance, très amoureux d'elle, Slatana se retrouve face à un dilemme qui ressemble davantage à un piège. Sauver la maison et les terres de la famille menacée d'expulsion en acceptant le pire, ou rester intègre coûte que coûte et vivre avec Kuandik. Un sujet classique finalement, hein, un schéma assez courant qu'on voit souvent dans les mélos fleuves indiens. Ce sujet qui sert de canevas à ce très beau film contemplatif, limite hiératique, mais empreint d'une vraie sensibilité derrière les affaîtris visuels, ne sombrant jamais dans les clichés publicitaires. La tendre indifférence du monde, hein, au passage, d'ailleurs, je trouve que c'est un très très beau titre, on dirait un roman de Kundera, parvient à fasciner par ses choix stylistiques, des longs plans fixes filmant des personnages immobiles dans des paysages somptueux pour les extérieurs, succession aussi de cadres à l'intérieur du cadre, notamment pour les intérieurs, embrasures de portes, miroirs, encadrement de fenêtres, un peu comme des tableaux peints à l'intérieur d'un écran, des dialogues réduits mais très beaux, hein, comme, un peu comme des haïkus, travail subtil aussi sur l'ellipse et le hors-champ, le jeu minimaliste des comédiens formidables, silhouette ubuesque se fondant dans le décor. Le film rappelle, par sa poésie décalée, son humour absurde et parfois aussi déchirant, l'univers des premiers films de Takeshi Kitano, et notamment, on pense beaucoup à L'été de Kikujiro et surtout de Hanabi. Alors, à l'instar de l'auteur de Sonatine, hein, Adilkhan Yerzhanov, par ses ruptures de ton incessants, intègre judicieusement des éléments de sauvagerie au cœur d'une romance édifiante. La sophistication à rien ostentatoire de la forme s'avère plus touchante que poseuse, comme si on feuilletait un beau livre d'images picturales, un conte lumineux et pourtant totalement désenchanté, hommage vibrant à la création artistique, à l'évasion par l'art comme ultime ressource pour fuir un quotidien sinistre rongé par un système répressif et injuste. Alors on garde en mémoire surtout, enfin moi j'ai gardé en mémoire, une des dernières répliques où les deux amants assis près d'un arbre semblent connaître un peu l'issue de leur existence. Alors lui il dit c'était un mauvais plan, parce qu'il y a un côté polar dans le film, et elle répond rêveuse, oui, mais c'était une belle journée. Alors un instant très émouvant, assez ironique, et je trouve que c'est un échange très très beau. Voilà, entre la romance, on va dire, la chronique sociale, la comédie décalée, le polar très sombre, La tendre indifférence du monde est une œuvre assez cruelle et émouvante, ambitieuse et modeste. Alors Jimbe imbute sa propre virtuosité technique, hein, qui est cette virtuosité, cette qualité formelle, elle sert toujours le propos au lieu de le figer.
Eh bien, merci. En tout cas, film kazakh.
Et on n'en voit pas souvent des films kazakhs. Hein.
Non, mais Arizona, qui distribue ce film, est un peu spécialisé sur les films géorgiens kazakhs.
Ouais, mais
et c'est grâce
plus,
à lui qu'on les voit en France.
Il y a un courage à prendre des films qui ont une vraie forme. C'est-à-dire que souvent, on s'empare, enfin, quand on voit des films kazakhs ou de ces pays-là, on a un peu une forme un peu identique.
Il faut du courage aussi hein, pour sortir un film de Lars von Trier, parce que c'est pas forcément eh bien, un réalisateur qui a beaucoup de succès au niveau des entrées, mais ça nous permet quand même de jouer sa filmographie, un blind test.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, c'était pas évident de trouver des versions françaises hein, pour les films du réalisateur danois.
Comment ? On va peut-être pas reconnaître.
Oh si, quand même, je pense. Notamment, celui-ci, il est facile.
678. La tombola des haricots. Personne n'a deviné combien il y en avait dans la bouteille. Non, en effet. Moi, je le sais. Il y en avait 678. Ou peut-être, mais... Mais qu'est-ce que ça prouve ? Que je sais les choses. Et quand je dis qu'on est seul... On est seul. Il n'y a de la vie que sur la Terre.
Alors, c'était donc facile, comme j'avais dit, non, Manu ?
Oui, c'était Mélancolia.
Voilà, ces deux sœurs, Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst, qui avaient remporté d'ailleurs le prix d'interprétation. Et c'était la troisième fois qu'une actrice de Lars von Trier remportait le prix d'interprétation à Cannes. Lui qui est accusé bien de harcèlement vaguement.
L'un n'empêche pas l'autre, voilà. Elle peut avoir été très bonne devant la caméra après avoir été harcelée.
Voilà, mais non, c'était juste pour dire que c'est comme ça qu'il se défend, hein, que le harcèlement, bon déjà, il...
Ah, du bon
Non. c'est qu'il exige effectivement beaucoup de ses actrices, effectivement, et de ses acteurs aussi, et donc ça se voit à l'écran. Allez, deuxième extrait qui, à mon avis, est aussi facile.
Où est votre famille ?
Je n'ai pas de famille. Je n'avais plus que mon père. Ces gangsters me l'ont pris.
Et si je vous disais que vous pouvez rester ?
Ici ? Même si vous le vouliez, ce serait pas possible. C'est une toute petite ville. Faut que je me cache, les gens finiraient par se poser des questions.
Il y aurait peut-être pas de problème, s'ils sont tous d'accord pour vous aider.
Vous voulez dire que tout le monde dans cette ville est comme vous ?
Ce sont des braves gens. Ils sont l'honnêteté même. Ils ont tous été un jour dans le besoin, eux aussi. Il se pourrait qu'ils vous refusent leur aide, mais... Je crois que ça vaut le coup de leur poser la question.
Alors, Marine, tu l'as trouvé ?
Dogville.
Oui.
Avec Nicole Kidman.
Oui, en 9 chapitres avec un décor minimaliste, pour ainsi dire, presque pas de décor. Oui. Film de 2003, troisième extrait.
Les autres personnes qui ont déjà visité la maison ont eu l'air d'y être plutôt opposées.
Opposées ?
Au fait qu'il y ait une institution au bout de la rue.
Ah, ça...
C'est une curieuse façon de penser.
Non, oui, je ne crois
oui,
pas.
Même de nos jours, on rencontre ce genre de gens.
Oui.
C'est très étrange.
Oui, c'est une assez vieille maison. Enfin, précisément, ça se trouve où, je veux dire, elle est où ? Enfin, elle est loin ?
C'est la maison d'à côté.
Ce sont vos voisins ?
Oui. Et vous savez quoi ?
Ok.
Quand la maison était vide, ils ont pris l'habitude de venir ici. Bien sûr, ça ne doit pas nécessairement continuer. Mais ils aimaient bien ramasser les noix, des choses comme ça. En automne, ils viennent ramasser les noix.
Alors, il s'agit...
Et c'était les idiots.
Donc les idiots, hein, ce sont des petits bourgeois qui s'amusent à retrouver l'idiot qui est en eux. C'était un film réalisé conformément au manifeste Dogme 95. Et c'est un film donc, qui est sorti en 98, quatrième extrait.
Vous devez pourtant admettre que la fourchette à gâteau est un outil pratique dans son genre. C'est un peu le croisement entre... un couteau, une fourchette. L'idée, c'est que vous êtes censé réussir à tenir l'assiette d'une main, couper le gâteau de l'autre et ensuite utiliser la fourchette pour le manger. Ça n'est pas féminin, tout au plus bourgeois. On raconte que les bolcheviks, lorsqu'ils ont ravagé la Russie, séparaient les adultes des enfants et pour distinguer la bourgeoisie du prolétariat, ils prenaient un des enfants. Et avant d'incendier une maison, ils l'envoyaient à l'intérieur pour qu'il vérifie s'il y avait bien des fourchettes à gâteau.
Alors, c'est caractéristique, bien, en tout cas, de ces deux derniers films.
Oui, c'était Nymphomaniaque, mais le 1, c'était la première partie,
Oui, je crois que c'était le 1, effectivement. Film sorti en 2013, donc en deux parties. En France, il est sorti en janvier. Dernier extrait de ce blind test spécial Lars von Trier.
Les livres que tu as consultés pour faire tes recherches font l'inventaire des atrocités commises de tout temps contre les femmes. Et toi, tu y vois des preuves de la malignité des femmes? Tu étais censé faire la critique des idées professées dans ces textes, c'était le sujet de ta thèse. Et au lieu de ça, tu les fais tiennes? Tu te rends compte de ce que tu dis là?
Fais pas attention. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Alors, ça a été trouvé, Manu?
Antichrist.
Film de 2009 qui a permis à Charlotte Gainsbourg de remporter le prix d'interprétation donc, à Cannes. Il a été pressenti d'ailleurs hein, pour remporter la Palme d'Or, mais le réalisateur James Gray, visiblement, qui faisait partie du jury, s'y est opposé. Bon, c'est vrai que c'est un film peut-être un des plus polémiques de,
oui, sur sa misogynie,
du réalisateur voilà. Danois.
Alors que pas du tout, en fait, il n'est pas du tout misogyne.
Et à noter d'ailleurs qu'il a été interdit au moins 18 ans en 2017, ça je ne le savais pas, suite aux demandes de l'association Promouvoir, et le Conseil d'État a validé cette demande, donc maintenant il est interdit au moins 18 ans, d'ailleurs comme la deuxième partie de Nymphomaniac.
Comme la vie d'Adèle aussi.
Et la vie d'Adèle, oui. Allez, bam oui. Alors, on en termine juste pour vous demander, d'après vous, quel est le film qui a eu bien le plus de succès en France
parmi... Dancer in the Dark.
Oui, c'est ça. Avec, c'est le seul d'ailleurs qui a dépassé le million, avec 1 200 000 personnes, spectateurs qui l'ont vu. Ainsi s'achève le blind test spécial Lars von Trier. Et maintenant, eh bien, nous allons parler grosse machine américaine.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel? Comme un alien, peut-être.
Alors rappelez-vous, hein, en 1987, sortait sur les écrans alors, le prodigieux Predator, hein, modèle indépassable du cinéma d'action, cocktail savoureux d'aventures exotiques et de cinéma horrifique, un mélange, on va dire... pour faire court, d'Alien et des 12 salopards, se terminant par une confrontation culte entre le monstre Rasta et un Schwarzenegger parfaitement crédible en mercenaire. Alors le tout filmé là par un cinéaste alors en pleine ascension, hein, John McTiernan, certainement l'un des plus grands metteurs en scène américains des années 80-90, rayé de la carte du système hollywoodien depuis une histoire d'écoute téléphonique qui lui a valu 6 mois de prison ferme. Voilà une petite parenthèse pour rappeler les origines de Predator. Alors en 90, il y en a eu un deuxième, hein, Stephen Hopkins, futur créateur de la série 24 heures. Hein, il réalise donc le Predator 2, qui cette fois se situe en pleine ville. On passera alors sous silence les très mauvais Alien versus Predator et sa suite, ou encore le pathétique Predator de Nimrod Antal avec un Adrian Brody complètement à côté de ses pompes. Alors comme on ne pouvait pas faire pire, c'est avec un certain intérêt que j'attendais ce nouveau Predator qui n'est ni une suite, ni un préquel, ni un remake, mais ben on ne sait pas trop en fait. Hein, on va dire une nouvelle histoire exhibant sans retenue les fameux chasseurs d'hommes sanguinaires venus de l'espace. Alors le scénario parfaitement prévisible ne cherche pas l'originalité, mais l'efficacité. Les prédateurs les plus redoutables de l'univers sont désormais plus forts et plus intelligents que jamais, et même plus grands que dans les autres prédateurs. Ils sont génétiquement modifiés grâce à l'ADN d'autres espèces. Ils arrivent sur Terre pour s'emparer d'un individu qui leur permettra d'acquérir encore plus de puissance, mais c'est sans compter l'intervention d'une bande de militaires prévue pour l'asile psychiatrique et d'une scientifique pour empêcher l'extinction totale de la race humaine. Alors, d'emblée, le petit plus est de nous présenter une galerie de, on va dire, de bad guys borderline, au bord de la folie, des types ayant subi un trauma lié à la guerre, ce qui nous vaut quand même quelques séquences cocasses, nous changeant agréablement des super-héros inodore et incolore qui inondent des écrans depuis près de 20 ans.
Les prédateurs passent pas leur journée à se faire des chapeaux avec nos os. Ils colonisent l'espace. Mais ce n'est pas ce qui se profile à l'horizon.
Est-ce que je dois m'inquiéter ?
Peut-être.
Je crois que vous savez ce qu'il y a à bord.
On va peut-être crever. Mais c'est pas encore fait.
Bon, un certain nombre vont crever. Hein. Ben bon, ça, c'est
sinon,
pas
vraiment
une
surprise.
Alors, derrière la caméra se cache Shane Black, scénariste culte des années 80, puisqu'on lui doit tous les Armes Fatales et le Dernier Samaritain. Black incarnait également Hawkins, le fan de comics à lunettes dans le premier Predator. C'est en toute logique de le retrouver derrière cette franchise, cette fois en tant que réalisateur, lui qui renouvela le cinéma d'action des années 80 avec une poignée de titres cultes. Alors aujourd'hui, Shane Black, c'est un peu une marque de fabrique, l'assurance d'une ambiance décontractée, alternant mort violente et vannes bien senties, avec aussi un aspect très américain, constituant généralement ses histoires à Noël afin de contextualiser ses récits dans un cadre populaire. Mais là, non, ça ne se passe pas à Noël. Pour une fois, en fait, Noël est remplacé par Halloween dans ce Predator, ce qui tombe à pic vu le look crasta des extraterrestres. Alors, le scénario coécrit avec son complice Fred Decker, réalisateur de l'excellent Monster Squad, d'ailleurs co-écrit par Shane Black, commence donc sous les meilleurs auspices avec cette horde, non pas de bras cassés, mais de cerveaux en vrille, partant casser du monstre chevelu. À cela s'ajoute une jolie scientifique qui s'avère être, en l'espace de deux plans, une redoutable guerrière maniant avec beaucoup d'agilité la moindre arme à feu. Alors pas de doute, nous sommes bien dans un film fun et gentiment dégénéré qui ne s'embarrasse pas de la moindre vraisemblance. Alors malgré toute la sympathie qu'on peut porter à ce type de projet, Predator ne dépasse guère son statut de série B friquée, manquant singulièrement d'ambition. Alors conscient des limites de son histoire un peu foutraque, Shane Black joue à fond la carte de la dérision, ne se prend jamais au sérieux. Cette distanciation est plaisante mais révèle ses limites lors de scènes d'action censées être impressionnantes qui se révèlent en fait terriblement mécaniques et désincarnées. On a l'impression que Blake, réalisateur aussi d'ailleurs de Kiss Kiss Bang Bang, fait ce qu'on attend de lui, déroule son talent dialoguiste, trouve le récit de référence à la sous-culture américaine, mais ne fait aucun effort pour développer les thématiques passionnantes abordées dans le film de McTiernan. Alors toute la dimension, on va dire, entre parenthèses, métaphysique et philosophique, notamment le rapport nature-culture entre chasseurs et chassés, est totalement évincé. Alors seul le divertissement compte sur ce plan, Shane Black remplit son contrat. Mais bon, son Predator restera pas non plus dans les annales du cinéma de, on va dire, SF, film d'horreur.
On reste aux États-Unis avec le premier film de Mélanie Laurent et avec le scénariste de True Detective, et c'est Marine qui nous en parle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Tu te rappelles quand on est allé à Galveston? On a eu de bons moments. Tu te rappelles?
Et on continue donc avec Galveston. Un homme de main, un peu filou, j'avais envie de mettre le mot filou dans ma chronique, persuadé qu'il est atteint d'une tumeur au poumon et que ses jours sont comptés, s'amourage d'une jeune fille paumée aspirant à devenir escorte. Ils se retrouvent tous les deux pris pour cible de son ancien patron et en cavale, avant d'atterrir dans la ville de Galveston, dans le sud du Texas, sorte de petite station balnéaire pour redneck. Alors qu'on juge Mélanie Laurent énervante, toute représente dans les médias, hein, bref, que l'on aime ou pas son image, force est de constater qu'elle s'est filmée. Son premier film, Respire, était un joli drame adolescent, quoique un peu pompé, à y réfléchir sur My Summer of Love de Paweł Polikowski, d'ailleurs, le réalisateur de Cold War, également, pardon. Son second film, moins grand public, plus sombre, intitulé Plongée, donnait un excellent premier rôle à Gilles Lelouch. Et Galveston, son troisième film donc, offre à Mélanie Laurent une première échappée américaine. Alors qui dit Hollywood dit gros budget, distribution tonitruante, ici Ben Foster et Elle Fanning, et producteur omnipotent, Mélanie Laurent a-t-elle su garder son âme? Et bien malgré que le film ne soit pas d'une originalité transcendante, on pense notamment à Beautiful Day de Lynn Ramsey, il est réussi. Mélanie Laurent s'échappe du drame psychologique pour réaliser un polar sombre, nerveux, très efficace, histoire de mettre définitivement à mal l'expression « film de femme ». J'ai jamais pu blairer cette expression. Et puis tant qu'à faire un film aux États-Unis, eh bien, elle s'est offert tous les clichés, hein, les grosses voitures, les routes qui n'en finissent pas, les motels miteux, la country. Il n'y a finalement que dans les rares scènes de famille, de joie volée, que l'on reconnaît son style visuel et son goût pour la lumière tombante. Elle relate avec Galveston un itinéraire sans optimisme, sans concession, sans réelle rédemption. Je ne vais pas dire sans intérêt, mais malgré ses qualités formelles, je trouve un petit peu dommage d'avoir choisi d'adapter cette nouvelle de Nick Pizzolatto, car on a juste l'impression d'avoir déjà vu ça 100 fois. En même temps, la raison est simple, ça permettait au distributeur de mettre sur l'affiche basé sur la nouvelle du créateur de True Detective, autrement dit d'appâter un peu le spectateur, mais c'est vrai que sinon l'histoire n'a pas grand intérêt.
Un film qui a beaucoup d'intérêt pour nous, parce qu'on l'a vu, qu'on a adoré, c'est En Liberté. C'est le film de Pierre Salvadori, le réalisateur des Apprentis de Hors de Prix, de Comme une Respire et j'en passe, un grand maître de la comédie française. Et pour teaser un peu l'interview qu'on a pu réaliser et qu'on diffusera la semaine prochaine, on l'écoute parler de la comédie française.
Si vous voulez, en France, c'est compliqué parce qu'il y a Sacha Guitry, après il y a plus rien. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez. Moi, c'est là que j'ai... Il y a toujours eu une considération et une réflexion autour de la comédie, ce qui fait qu'il n'y a jamais de béance. Vous avez Lou Beach, après vous avez Billy Wilder, après Billy Wilder, vous avez Black Edwards, après Black Edwards, vous avez Francoz, après Francoz, vous avez les frères Farrelly, après les frères Farrelly, vous avez Joe Apatow, après Joe... Vous voyez, il y a une espèce de lignée, les gens s'inspirent les uns les autres et tout. Moi, j'ai été chercher, parce que chez nous, en France, la comédie, c'est plus souvent un travail de producteur. et un désir de producteur. Ce sont des films de producteurs avant d'être des films d'auteur. C'est-à-dire, il y a un mec qui dit, tiens, putain, mon bateau est en panne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai vu cette baraque près d'Avignon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, une comédie! Je vais prendre!
Lui.
Et on s'en fout du film. Au fond, le mec, il s'en fout complètement. Il n'y a pas un endroit où il y a un amour de la comédie ou du cinéma.
Voilà, comme ça, c'est clair.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Comme on vous l'a annoncé, la semaine prochaine, on écoutera en long, en large et en travers Pierre Salvadori, qu'on aime tant. Et plutôt Marine.
Et moi, je vais vous parler de Bohemian Rhapsody, le biopic sur Freddie Mercury, que j'aime tant aussi. Et un film iranien qui s'appelle Invasion.